qui est la connaissance de l'être de raison. Progressivement, on essaiera de comprendre ce que c'est que l'être de raison. Doit donc se diviser en logique de l'universel, de l'attribution et du raisonnement, ou de l'inférence. C'est plus juste de dire ça. Ce sont les trois espèces d'êtres de raison qui existent, de fait. Les trois espèces d'êtres de raison dans leur structure différente. L'universel, en raison même de notre connaissance abstraite, les réalités sont singulières, et dès que nous les connaissons, nous leur donnons un mode particulier qui est le mode universel. Tout notre langage est universel. Tout notre langage est au niveau de l'universalité. C'est ce qui permet, de fait, de pouvoir parler. Ici, notre langage sait exprimer uniquement les réalités individuelles, comme ces réalités individuelles sont infinies. Notre langage devrait être infini. Si notre langage reposait sur chaque individu, ce serait impossible. Le langage, de fait, implique une abstraction et possède ce mode universel. C'est important parce que la logique va s'appuyer toujours sur le langage, hein, forcément. Parce que le langage transmet notre manière de connaître. La logique est plus intérieure que le langage. Elle n'est pas qu'au niveau du langage, mais elle s'exprime au niveau du langage. De fait, notre intelligence, non seulement abstrait, mais parce qu'elle abstrait, elle recompose. Par l'abstraction, elle saisit partiellement les choses et elle veut ensuite les recomposer. Et donc, il y a la composition et la division qui apparaissent à travers le jugement. Nous avons là le point de vue de l'attribution ou de la non-attribution. Et puis, l'intelligence raisonne. Et du fait même que l'intelligence raisonne, il y a un être de raison nouveau qui est ce qu'on appelle l'inférence. On verra ça progressivement. Je voudrais avec vous au moins voir un tout petit peu ces trois aspects. Logique de l'universel, logique de l'attribution, logique de l'inférence. Alors, pour que vous compreniez bien où apparaît l'universel, je suis obligé de faire un tout petit peu de critique ici. Donc je change de vitesse, hein. Bien comprendre la différence. Les deux se tiennent très fort. Les deux sont des attitudes réflexives. Ce n'est pas la philosophie au sens propre, c'est l'attitude réflexive. L'attitude réflexive sur ma vie intellectuelle. Alors ici, ça se recoupe avec le cours de critique que nous faisons en troisième heure. Mais comme je fais le cours pour les propédeutes, en premier lieu, et qu'ils ne peuvent pas assister au cours de critique, et qu'il est nécessaire qu'ils aient quelques éléments de critique, je vais donner quelques éléments de critique ici. Vous les retrouverez en partie de l'autre côté, dit différemment, parce que ce n'est pas tout à fait le même contexte. N'est-ce pas ? Alors on est obligé de voir les choses différemment. Je dis ça, c'est parce que... Alors qu'est-ce que c'est que la critique ? Vous voyez, il faut essayer de saisir ces aspects différents de la réflexion d'intelligence. La critique, c'est la réflexion sur le comment de notre vie intellectuelle. Comment nous connaissons. Comment notre intelligence, de fait, est très variée dans son cheminement, et pourtant toujours, elle cherche la même chose. Il y a une certaine unité dans notre vie intellectuelle, et pourtant, il y a une très grande variété. Vous voyez la différence entre la logique et la critique, hein ? Qu'est-ce qui pourrait dire la différence, hein ? Vous. Qu'est-ce qui pourrait me dire la différence entre la logique et la critique, d'après ce que je viens de dire et d'après ce que nous avions vu sur la logique?
La logique est un instrument qui nous sert à réfléchir.
Un instrument qui nous sert à l'art. La critique n'est pas du tout un art. Il y en a tout de suite une différence. La logique dirige ce qui en nous risque d'être faible, donc c'est un instrument. La critique n'est pas un instrument. La critique est au niveau même de notre vie philosophique. Première différence. Si je presse un peu pour aller plus loin, et que j'essaie de comprendre ce que considère la logique et ce que considère la critique. Est-ce que vous pourriez préciser? La critique regarde l'être de raison. C'est-à-dire, elle regarde l'universel. La critique va regarder le concept. Vous allez voir là tout de suite la différence, hein, j'espère. Bon, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. La logique regarde l'universel, la critique regarde le concept. Au niveau critique, j'essaie de comprendre ce que c'est que le concept et pourquoi la connaissance implique le concept. Au niveau métaphysique, je me sers du concept, je m'en sers du concept, mais je ne m'arrête pas au concept. Je m'arrête à l'arrière. La philosophie indique toujours le jugement d'existence. Elle s'arrête à la réalité. Mais la différence entre une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. La philosophie idéaliste commence par le concept, donc par l'idée. Alors, ça, il faut essayer de comprendre. Vous arriverez à saisir, j'espère, ça c'est quand même très important, comme petite distinction. C'est tout ça que j'insiste, parce que je crois que ça, c'est capital. Une fois qu'on a saisi ça, on comprend la différence entre une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. Alors, je me mets au plan philosophique. Je suis toujours au jugement d'existence. Le jugement d'existence est toujours présent au niveau de la philosophie, la recherche philosophique. C'est-à-dire que je regarde la réalité existante. Je peux regarder les autres réalités aussi, mais je regarde en premier lieu la réalité existante. Je regarde en premier lieu l'ordre. La philosophie se fixe sur l'ordre. La critique. La critique va réfléchir sur mon cheminement intellectuel. Comment oui, c'est le comment. Comment puis-je connaître avec exactitude? Comment puis-je atteindre la vérité? Est-ce que je suis capable d'atteindre la vérité? Est-ce que j'atteins la vérité? Comment puis-je l'atteindre? Ça, c'est la critique. Tandis que la philosophie, elle, regarde la réalité existante. L'homme. Puisque parmi les réalités existantes, c'est l'homme qui m'intéresse avant tout. L'homme dans sa genèse, l'homme dans ce qu'il est, dans ses grandes dimensions, et ainsi de suite. C'est ça qui m'intéresse. C'est de regarder l'homme et de saisir l'homme dans toutes ses dimensions. Puisque le fait, la science ne regarde pas l'homme. Différence entre la science et... Vous allez me dire, les sciences humaines. Oui, les sciences humaines, en réalité, regardent le comportement de l'homme, et pas l'homme. Pas l'homme dans sa finalité. Et l'homme et sa finalité. L'homme possédant l'esprit. Donc, la critique regarde comment du cheminement intellectuel. La logique. La logique, elle regarde l'être de raison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le comment de ma vie intellectuelle implique l'abstraction. Donc, je ne saisis qu'une partie de la réalité. Je ne saisis pas toute la réalité. Je ne suis pas intuitif. Même quand je dis je la perçois, en réalité, percevoir la réalité et la réalité, c'est encore autre chose. Oui, donc il y a une différence entre la réalité et la connaissance de la réalité. Eh bien, la logique va essayer de saisir la transformation que l'intelligence fait subir aux choses quand elle les digère, c'est-à-dire quand elle les connaît. C'est vrai, quand je connais quelque chose, je l'absorbe. Je porte en moi le monde de mes connaissances. C'est évident. C'est pas ma bibliothèque qui est mon monde de connaissance. Je peux avoir une très belle bibliothèque qui est un ignare, un imbécile. Bon, j'ai une belle bibliothèque, voyez ma connaissance. Ah oui, très bien. Elle n'a pas de connaissance, elle n'est pas dans ma bibliothèque. C'est très utile d'avoir une belle bibliothèque, ça peut aider comme instrument de travail. Mais ce qui la connaît, la science, elle est en moi. Ma connaissance, elle est en moi. Je la possède en moi. Et c'est comme ça que je peux utiliser des livres. Autrement, je ne pourrais pas en utiliser. C'est déjà un art d'utiliser des livres et de savoir utiliser un dictionnaire. Il faut l'utiliser. Et donc, la connaissance, elle est en moi. Et du fait même que je connais la réalité, je transforme la réalité. quelle est cette transformation? C'est ça que j'appelle l'être de raison. Et on pourrait dire l'écart qui existe entre la réalité et la réalité en tant que connue. C'est pas la manière dont je l'atteins, mais c'est le résultat, en quelque sorte. C'est du côté du résultat. C'est ça qu'on appelle l'être de raison. Alors, il faut saisir ces choses-là. Alors, l'être de raison, je vous disais tout à l'heure, c'est l'universel, c'est l'attribution, composition et division, c'est l'inférence. Voilà les trois grandes parties de la vie. Évidemment, on voit très bien que ces parties sont très très différentes les unes des autres. Hein. Et vous voyez que ces trois parties de la logique regardent de fait les trois opérations de l'esprit. C'est ce que nous allons voir. Alors en regardant les trois opérations de l'esprit, je ne suis plus en logique, je suis en critique. Vous voyez un peu le passage. Là, je regarde les résultats. La première opération de l'esprit me permet de connaître l'universel. L'attribution, dans tout jugement, il y a l'attribution. Et dans tout raisonnement, il y a une inférence. Induction, déduction. Il y a une inférence. Il y a passage de l'un à l'autre. Ou mouvement dialectique. Passage de l'un à l'autre. Il y a une certaine causalité, si vous voulez. Bon, alors maintenant, puisque l'universel, l'attribution et l'inférence sont les fruits des trois opérations d'esprit, pour comprendre bien ces fruits, je suis obligé de regarder les trois opérations d'esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une critique avec intelligence sans une critique. C'est pas possible. Autrement, alors je regarde uniquement l'aspect formel de la critique et j'opère sans rien comprendre. Ça, c'est une solution. Il y a des gens qui disent, moi je fais de la critique, il suffit d'avoir les règles de la critique. Exactement comme une règle à calculer. J'applique les choses, je ne comprends pas comment ça se fait, ça n'a pas d'importance. Le résultat, il est là. Et, alors, ça, ce serait uniquement l'application de la logique, ce n'est pas la logique. Vous voyez, c'est tout l'aspect logique-science qui disparaît. Et je ne regarderai que la manière uniquement d'exécuter. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment va naître l'universel, comment va naître l'attribution, comment va naître l'inférence. Et pour ça, il faut regarder les trois opérations d'esprit. Donc, nous allons essayer maintenant, si vous voulez, alors, quelques cours, hein, on n'a pas énormément de temps, mais je crois que, de toute façon, vous ne le faites pas. Hein. Dans les introductions qu'on vous donne, il n'y a pas de critique. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à empiéter sur cela, parce que je crois que la critique est plus importante pour vous que la logique. Et vous savez, quand on discute ensemble, il y en a qui sont d'avis inverse, alors il y en a qui disent, oh, ouais, compris la logique. Si on l'avait sévère, vous auriez pu faire un cours de critique de la connaissance, pour comprendre la différence entre la connaissance réaliste et la connaissance dialectique. Ça me semble beaucoup plus important pour vous, voyez, parce que la logique ne vous donnera pas la différence entre les deux. Alors, on peut, à l'occasion de la logique, faire un peu de critique. Vous voyez, c'est le biais, parce qu'il n'y a pas de critique. On a considéré que c'était inutile, alors que je crois que c'est très important. Parce que c'est important d'essayer de réfléchir un peu pourquoi nous optons pour une philosophie réaliste. Quelle différence est-il une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste à la manière de Hegel, de manière dialectique? Pourquoi on n'adopte pas, du moins, je n'adopte pas la dialectique hegelienne, alors qu'elle est à l'ordre du jour? Ce serait beaucoup plus facile, tout le monde serait d'accord. Si je prenais la dialectique hegelienne, tout le monde serait d'accord. Si on veut maintenir une philosophie réaliste, on dirait, ah, parce que au fond, c'est pas à l'ordre du jour, c'est vrai, Hegel est à l'ordre du jour. Si vous voulez être à l'ordre du jour, mettez-vous dans Hegel. Mais là, je ne réponds pas de ce qui se passera après. Parce que quand un hegelianisme, c'est très très puissant, c'est très très fort. C'est difficile, vous mettrez du temps avant de comprendre, ça c'est sûr. Mais vous pourrez vous jeter dedans, et au bout de quelques années, tout en faisant votre théologie, vous faites de la philosophie hegelienne, au bout d'un quelques temps, vous deviendrez spécialiste de Hegel, mais je ne sais pas très bien où ça vous mènera. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi les deux démarches, vous voyez. C'est ça qui m'intéresse avec vous, d'essayer de regarder ça. Alors, regardons donc, premier moment de la critique, comment poser trois opérations d'intelligence. C'est important, ça. trois opérations d'intelligence. Pourquoi trois opérations d'intelligence? Nous réfléchissons sur la complexité de notre vie intellectuelle. Enfin, c'est facile à comprendre. Hein. Je ne vais pas réfléchir très longtemps là-dessus, parce que je crois que c'est facile à comprendre. La complexité de votre vie intellectuelle. Tout simplement, réfléchissez sur tout ce que vous, pendant la journée, vous faites au point de vue intellectuel. Hein, vous réfléchissez quand même de temps en temps, vous raisonnez, vous jugez, et puis de temps en temps, vous saisissez certaines choses. Vous dites, ah, j'ai compris. J'ai compris. Avant, je n'avais pas compris. Donc, il y a de temps en temps des intuitions, ça vous tombe dessus, vous ne savez pas pourquoi. J'ai une intuition. Ce matin, en me levant. Sans doute parce qu'on m'a levé un quart d'heure plus tôt, alors j'ai pu avoir là le temps de réfléchir, j'ai une intuition. Et puis, au contraire, de temps en temps, vous dites, non, aujourd'hui c'est nébuleux, je ne vois rien du tout, je ne comprends rien du tout. Je suis vaguement le coup, il y a des mots les uns après les autres, mais je ne vois rien du tout. Alors, c'est un chapelet de mots, de temps en temps encore, s'il y a des arrêts, ça va encore, mais au fond, c'est, je ne vois rien du tout. C'est compréhensible, parce que le langage philosophique, même si j'emploie un langage le plus simple possible, ce langage, il n'est quand même pas tout à fait le même langage habituel. Il y a une précision dans le langage philosophique qu'on est obligé d'avoir. Alors, complexité de la vie intellectuelle, tout le monde comprend ça. Cette complexité, dites complexité de ma vie de connaissance. Alors, dans ma vie de connaissance, il y a des sensations, ça tout le monde doit connaître. Il y a des imaginations. De temps en temps, vous avez des distractions. Qu'est-ce que je vais faire dimanche? Une distraction. Un rêve. Qu'est-ce que j'ai rêvé à cette nuit? Rêve. C'est des connaissances. Hein. C'est des connaissances. Et ça peut être quelquefois génial. On peut être génial du côté de l'imagination. Non. C'est évident, ça peut arriver. Et puis, il y a des jugements. Vous jugez. Vous critiquez. Chaque fois que vous critiquez quelque chose, vous jugez. Donc vous savez très bien ce que c'est. C'est un discernement. Vous discernez. Dites-lui, ça, ça doit être bien. Ça, c'est idiot. C'est un discernement comme ça. Assez brutal. On fait discernement. Puis alors après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des raisonnements. Quand vous discutez entre vous, quand vous dialoguez, vous raisonnez constamment. Vous dites, c'est affirme que c'est ça. Voilà la raison. Vous prenez des raisonnements plus ou moins vrais, mais vous prenez comme raisonnement des exemples. Je t'affirme, c'est ça. Vous plaidez votre cause. C'est un raisonnement. Bon, je crois que tout le monde peut reconnaître ça. Ça, c'était facile à faire. La critique laisse tomber en premier lieu tout le domaine du sensible. Le sensible des sensations externes et le sensible immanent de l'imagination. On ne peut pas faire la critique en premier lieu du sensible. Pourquoi? Parce que le sensible, je ne peux y réfléchir que grâce à ma vie intellectuelle. J'ai conscience de ma vie sensible grâce à l'intelligence. L'intelligence, c'est justement la zone beaucoup plus étendue que le sensible qui est toujours à l'égard du singulier. Même l'imagination, c'est toujours à l'égard du singulier. Donc, je commence ma critique tout de suite. On y reviendra ensuite. On n'aura pas le temps, mais ça fait rien. Mais au fond, il y a une critique de la sensation. C'est évident. Il y a une critique de la sensation. C'est important, la critique de la sensation, mais ce n'est pas très commode. Alors, on la laisse pour le moment et on va s'en regarder uniquement notre vie intellectuelle. Et je crois qu'on peut assez vite. Ce n'est pas si commode que ça. Ça a mis du temps, historiquement. Et pour chacun d'entre nous, ça met du temps. Arriver à discerner l'imagination et la pensée. Pas si commode que ça. L'imagination, c'est le domaine de la représentation. Et le domaine de l'intelligence, c'est le domaine de la signification. Il faut arriver à faire ce petit discernement. Ça, c'est très important. Même au point de vue profond, au point de vue simplement humain. C'est très important. Et quand vous avez une image, une icône, représentée, représentation. L'image représente. Dès que vous pensez, c'est la signification. Vous voyez, quand vous pensez, par exemple, pensez à un chien. C'est inoffensif. Je pense ça. Vous pouvez vous représenter un chien.
peut-être d'ailleurs chien énorme, mais quand j'avais vu le lit, ça reste comme image. Ces derniers chiens, l'image est forte. Hein. Alors vous avez l'icône du chien, l'image du chien en vous, vous le représentez. C'est toujours tel chien. Tandis que la signification, vous définissez ce que c'est que le chien. La signification va au-delà de la représentation. Je crois que c'est la meilleure chose pour nous de faire le discernement entre le domaine de l'imagination et le domaine de l'intelligence. Le domaine de l'imagination, c'est le domaine de la fantasia, de toutes les représentations. Je me représente. Je décris ces représentations. Je décris ces images. C'est le domaine de l'image. Et l'image, c'est toujours la représentation. Tandis que tout d'un coup, vous dites, mais quelle est la signification de cette image? Et quand vous dites la signification de cette image, ah, vous êtes au niveau de l'intelligence qui saisit la signification des choses. Donc vous voyez, là, il y a un premier discernement qui est important à avoir, qu'on fait progressivement. Hein, on n'est pas un gosse de 5 ans de faire la différence entre la représentation et la signification. Pas comment. Mais quand on arrive à un certain âge, n'est-ce pas, l'âge de raison, on peut arriver à faire la distinction entre la représentation de l'image et puis le point de vue de la signification. Oui, les mots. Quand vous vous servez du dictionnaire, il y a deux manières de se servir du dictionnaire. Regardez la petite image qui est à côté. Et puis regardez la signification. Alors quand vous regardez la petite image, vous êtes au niveau. Justement, de l'image, tout simplement, de la représentation. Et puis, vous regardez la définition. Un dictionnaire définit. Ça, c'est de l'ordre de la signification, c'est l'intelligence. Dans notre vie, hein, les deux sont constamment liés l'une à l'autre. Mais la très grosse différence, c'est que le domaine de l'image reste dans l'ordre, de la reste dans l'ordre sensible et que la signification peut être universelle. Une représentation n'est jamais universelle. Alors vous pouvez vous dire d'une certaine manière qu'une représentation est universelle quand on est en face d'un archétype. Je vous représente un modèle. Oui, mais votre modèle, il est singulier. Il faut pas. Il aura valeur universelle par rapport à l'application, mais il est singulier. Tandis qu'au contraire, le mot, quand vous dites chien, il a une signification universelle. Donc, je crois qu'on peut arriver à cette distinction. C'est important. Il faut y arriver. Et nous laissons de côté donc, tout le domaine du sensible et nous entrons dans le domaine de l'intelligence, c'est-à-dire dans le domaine de la signification. Un des gros problèmes de la philosophie contemporaine, d'où vient la signification? Je vois que les mots ont une signification. Et quand les mots ont une signification, mais d'où ça vient la signification? Comment se fait-il que ces mots ont une signification? La représentation, c'est plus facile. C'est plus facile. On présente quelque chose. Oui, c'est au-delà des langues. Hein, c'est très curieux. C'est au-delà des langues. Le privilège de la représentation, c'est que c'est au-delà des langues. Parce que c'est singulier. Tandis qu'au contraire, la signification, alors, elle est liée au mot. Et tel mot a telle signification dans telle langue. Tel mot a telle autre signification dans telle langue. Il y a la même signification avec des mots différents. Tandis qu'il y a une seule représentation. Du chien, que vous soyez dans n'importe quelle langue, vous représenterez le chien de la même manière. Alors, vous pourrez me dire, il y a un style particulier, un symbolisme particulier. C'est vrai, au point de vue symbolisme. Alors, il y aura une valeur symbolique religieuse différente. Le cheval signifiera quelque chose au Japon et qui ne signifie pas la même chose en Occident. Et alors, si vous avez l'année du cheval, vous avez l'année de... et ainsi de suite. Hein. Alors, ça peut représenter quelque chose de différent. Mais ça, c'est alors c'est symbolique. Oui. Alors, la représentation se charge d'une signification. Et vous avez le symbole. Le symbole, c'est lorsque la représentation se charge d'une signification. Et là, vous avez l'alliance entre la représentation et la signification, et vous avez quelque chose de symbolique. C'est ça que les deux éléments tout à fait fonciers, c'est la représentation et la signification. Et le symbole est quelque chose... déjà beaucoup plus évolué si vous voulez, parce qu'on regarde uniquement quand vous regardez une image. Hein. Vous donnez à cette image une valeur symbolique. Donner à une image une valeur symbolique,
c'est quand même quelque chose de très particulier, d'une signification dans le symbole, tout le temps. Donc, représentation et signification. Nous entrons dans le domaine de la signification. La première chose qui apparaît, c'est que c'est le juge. Quand vous entrez dans la signification, on dit que le chien est un animal. Ça a une signification de dire que le chien est un animal. Le cheval est un animal. C'est une certaine affirmation que vous faites. Le chien est un animal. Tous vos jugements, tous vos discernements sont complexes. Ça, c'est la chose très importante à saisir. Tous vos jugements, absolument tous. Et dans le langage, c'est très facile à comprendre. C'est complexe. L'homme est un animal. Vous avez donc deux éléments, homme, animal. Et si j'analyse ces deux éléments, je dirais l'homme est le sujet et l'animal est l'attribut. J'attribue animal à homme. Je peux l'attribuer parce que dans homme est contenu animal. Donc je peux attribuer animal à homme. Et je fais l'homme. Je peux aller plus loin. Je peux dire l'homme marche. Quand j'attribue à l'homme la marche, j'attribue une de ses opérations. Et à ce moment-là, il y a encore une composition. Il y a le sujet et le verbe. L'homme existe. Tel homme existe. Enfin, l'homme existe, mais tel homme existe. Tel homme marche. Tel homme. Un homme marche. Un homme existe. Alors, je suis en face du verbe. Donc, je vois que tout jugement s'exprime toujours d'une manière complexe. Toujours. S'il s'exprime d'une manière complexe, ça prouve que le jugement, qui s'exprime de cette manière complexe, n'est pas premier. Et alors là, ça c'est très important, évidemment, là, des quantités de philosophes n'iront pas plus loin. On ne peut pas aller plus loin, regardons uniquement les fonctions et c'est tout. Je peux aller plus loin, parce que s'il y a une complexité, je peux analyser. Toute complexité réclame une analyse pour supprimer la confusion qui existe dans la complexité, pour supprimer l'indétermination qui existe dans la complexité. Et je veux essayer de comprendre les éléments de cette composition. Analyser, c'est découvrir les éléments de cette composition. Quels sont les éléments de cette composition? Quand je dis homme, animal, voilà les éléments. Quand je dis homme, marche, voilà les éléments. Alors, je vais essayer de comprendre comment dans cette composition qui est le jugement, l'homme est un animal, l'homme marche, comment dans cette composition, je puis me ramener à quelque chose d'élémentaire, quelque chose de premier. Alors, comprenons bien ici, hein, c'est là le point de vue très délicat, comment nous passons du jugement opération complexe, opération parfaite aussi. Je pourrais dire que c'est l'opération parfaite par excellence du jugement, parce que le raisonnement présuppose le jugement et conduit au jugement. Donc très vite, je m'aperçois que le jugement, c'est l'opération la plus parfaite. Ce n'est pas le raisonnement qui est l'opération la plus parfaite, c'est le jugement. Puisque tout raisonnement présuppose un jugement, et que tout raisonnement conduit au jugement. Donc c'est l'opération la plus parfaite, c'est le jugement. C'est très important de comprendre ça. Le jugement, l'opération parfaite de ma vie intellectuelle. Ce jugement est complexe, il implique composition et division. Composition dans l'affirmation, division dans la négation. Il implique donc des éléments. Alors, ces éléments, qui sont homme, qui sont animal, qui sont verbe, qui sont donc sujet et attribut, ces éléments, il faut donc que je les connaisse à l'intérieur du jugement. Et que d'une certaine manière, ils soient connus avant le jugement. Quand je dis homme est animal, il faut savoir ce que c'est que l'homme, savoir ce que c'est que l'animal pour pouvoir dire l'homme est animal. Si je ne sais pas ce que c'est qu'homme et que je ne sais pas animal, je ne peux pas les unir. Ce serait complètement idiot. J'unirais des choses qui ne sont pas unies. Donc, cette opération élémentaire qui me fait saisir homme, qui me fait saisir animal, est une opération antérieure au jugement. Oui. Qui me donne des éléments. Mais je n'ai conscience de cette opération qu'à travers le jugement. C'est là les difficultés. Ça, c'est le point très délicat. Je vois que le jugement est quelque chose de complexe, qu'il implique toujours deux éléments, et donc il n'est pas premier. Ce qui est complexe ne peut pas être premier. Il présuppose d'autres éléments. Quand je dis homme est animal, nécessairement, je connais homme et je connais animal. Donc, cette opération qui affirme homme est animal n'est pas première. Si elle n'est pas première, elle en suppose une autre antérieure. Et cette autre antérieure, pourtant, n'existe jamais sans la complexité du jugement. Quand vous réfléchissez sur homme, de fait, vous réfléchissez homme toujours à l'intérieur d'un certain jugement. Ça, c'est très, très curieux. Et c'est la difficulté de situer exactement cette première opération élémentaire comparativement au jugement. Ça, je crois que c'est important de saisir ça, cette difficulté. On essaiera de le saisir, hein, exactement. Parce que je ne peux pas dire, mais oui, c'est une opération antérieure, donc il y a avant jugement des saisies. Des saisies à l'état pur, qui font saisir ces éléments. Je ne peux pas dire ça. Parce que si je suis attentif à ma vie intellectuelle, je m'aperçois que toujours, c'est à l'intérieur d'un jugement que je saisis. C'est pour essayer d'entrer un peu dans cette première opération. Alors regardons cette première opération élémentaire qui n'existe jamais sans jugement. Cette première opération élémentaire. Cette première opération élémentaire, on l'appelle dans le langage de saint Thomas, on l'appelle appréhension. Bien, parce que quand vous dites j'ai une appréhension, c'est pas ça du tout. Non, il faut bien faire attention. On appelle attention. On pourrait peut-être dire, pour éviter tout équivoque, dire une saisie. Une saisie. Dans le langage d'Aristote, c'est un toucher. Très curieux. Un toucher. L'intelligence touche. C'est du pointillé, si vous voulez. C'est la peinture du pointillé, il faudrait bien comprendre ça. C'est l'intelligence qui touche des points, comme ça. Puis après, elle les rassemble. Et en les rassemblant, alors je dis appréhension, saisie, toucher. Ne disons pas intuition. Parce que l'intuition implique toujours un jugement. Toujours. Donc c'est pas ça. C'est pas une intuition. L'intuition n'est pas quelque chose d'élémentaire. Vous voyez ? Comprenons qu'il s'agit là d'une opération, d'une première opération élémentaire. Quand je dis opération élémentaire, c'est-à-dire comme un élément, ça n'existe jamais tout seul. C'est une opération trop simple pour exister tout seul. Vous voyez, c'est l'analyse qui me donne cette opération. J'analyse pour découvrir ça. Mais je n'ai jamais une opération, cette opération à l'état pur. Extraordinaire. J'ai jamais cette opération à l'état pur. Cette opération, elle est toujours donnée à l'intérieur d'un jugement, ou à l'intérieur d'une intuition, c'est-à-dire d'un jugement. Un jugement intuitif ou un jugement abstrait. Elle est toujours donnée à l'intérieur d'un jugement. Et elle est l'élément, quelque chose de simple. Cette appréhension porte sur quoi? Elle porte sur les déterminations premières de la réalité. Sur les déterminations. Donc elle porte sur la forme de la réalité, telle détermination. En réalité, si on voulait creuser un tout petit peu, on verrait que cette appréhension porte sur ce qu'on appellera les 10 catégories. Vous avez déjà parlé des catégories, je viens de la trouver ici. Vous avez dit les catégories, il faut bien se rappeler ce que c'est que les catégories. Vous les savez par cœur?
Qu'est-ce qui pourrait nous amener les catégories?
Les catégories, les 10 catégories d'Aristote. Hein, les 10 catégories d'Aristote.
Alors, je vous les donne, hein, pour vous empêcher de les... Bon, alors, je vous les donne. Substance. Au niveau catégorial, hein, au niveau des catégories, c'est-à-dire au niveau des déterminations. Substance. Qualité. Quantité. Relation. Vous avez là les quatre premières catégories.
Ensuite, vous avez l'action, la passion, le temps,
le lieu,
le situs et la voix. J'en ai oublié un.
Alors, qu'est-ce qu'il sait ?
Il y en a 10. Ah, attends. Alors, je reprends pour que vous les ayez.
Là, c'est une chose qu'on doit savoir. Vous voyez, tout doit de la main. Vous savoir.
Substance, qualité, quantité, relation, action, passion.
Oui, parce que j'avais mis action et passion ensemble. En fait, action et passion, c'est relatif. Hein. Parce que quand vous donnez un coup de poing à quelqu'un, l'un pâtit, l'autre agit. Et c'est la même action. Donc, c'est l'étude du mouvement. Le mouvement se divise en action et en passion. Quand vous voulez analyser un mouvement, à devenir, c'est toujours action et passion. Alors, il y en a un qui agit, l'autre qui pâtit. Donc, vous avez donc action, passion, temps, lieu, situs et avoir. Alors, avoir, je vais expliquer ce que c'est. Avoir, c'est propre à l'homme. C'est la catégorie propre à l'homme. Parce qu'un petit animal, le chien, nous restons toujours avec le chien. N'est-ce pas ? Alors, le chien. Bon, le chien, il a une substance. C'est-à-dire qu'il y a une détermination fondamentale. Il y a un moi chien. C'est certain, il a une unité. Il a une espèce d'autonomie. Il existe, il a son autonomie, donc il a le moi chien. Alors, vous avez la qualité, parce que, évidemment, il a un poil remarquable. Puis il a des yeux. Et la quantité, il pèse tant. Bon, il a des relations. C'est évident, il a un maître. Et puis il a des amis. C'est sûr, il a des relations. Et la relation, c'est évident, elle existe au niveau des chiens. Parce que le voit la relation existe au niveau des chiens. Et la relation entre les chiens fait une communauté chien. Il y a des relations entre les chiens qui sont plus ou moins bonnes. Qui vont regarder un maître qui tient son chien et qui voit un autre chien, il ne voit pas la relation. Donc la relation, il y a l'action. De temps en temps, ils peuvent être morts. Et puis il y a la passion. Ils peuvent être morts. Ils sont dans le temps. Ils sont dans le lieu. C'est facile à préciser. Dans tel lieu, dans tel temps. Ils sont dans le situs. Un situs, c'est plus difficile. Vous comprenez tout de suite le situs quand vous voyez le chien qui fait le beau. Il n'est pas quatre pattes à ce moment-là. Il est à deux. Donc il a une cicatrice. Alors, à ce moment-là, vous comprenez que, de fait, il a une situation différente par rapport à l'ensemble. Pas la même situation. Mais le chien n'a pas d'avoir. Sauf d'une certaine manière métaphorique, en sens qu'il a un collier. Alors, il est cloué au maître. Il appartient au maître. C'est plutôt le maître qui possède le chien que le chien qui possède le maître. C'est plutôt ça. Donc, il y a l'avoir est du côté de l'homme. L'avoir, c'est la possession. L'avoir, c'est le fait d'user quelque chose. Un animal n'use pas. C'est très curieux. Alors, là, c'est très intéressant d'entrer dans ce problème-là. Un animal n'use pas d'une chose. Il n'use pas. Il n'use pas d'un collier, c'est curieux. Il est usé par le collier. Il n'use pas. L'homme se sert du chien. Il se sert du chien. Et il s'en sert. Et donc, l'usage fait qu'il y a une modification au niveau philosophique, au niveau de son être.
entre la réalité dont on se sert et celui qui s'en sert. On se sert d'un habit, on se sert de lunettes. Donc, tout ça, c'est ça. On se sert d'une pipe. Là, vous voyez l'usage. Évidemment, quand vous diriez les animaux dressés d'une certaine manière, usent de certaines choses. En fond, ce n'est pas naturel. En fond, c'est par l'intermédiaire du maître qu'ils usent. C'est par l'intermédiaire du maître. C'est par l'intermédiaire du dressage. C'est pas naturel, c'est artificiel. Donc, ce n'est pas au sens strict d'une catégorie. Tandis que les catégories regardent les dimensions de l'être. Donc, vous avez 10 catégories qui sont les 10 formes. Les 10 formes de la réalité sensible que l'intelligence saisit. Les formes simples. Curieux, du reste. Très curieux. Essayez de voir s'il y en a d'autres. Aristote a donné ça, mais depuis Aristote, on a fait des progrès. On aimerait découvrir de nouvelles catégories. Eh bien, les 10 catégories, vous savez, c'est pas si bête. Hein. C'est pas si bête d'avoir dit les 10 catégories, c'est-à-dire les 10 formes élémentaires, irréductibles les unes par rapport aux autres, qui sont les contacts de l'intelligence avec le réel. L'intelligence contacte le réel, c'est les 10 pointillés, si vous voulez, avec lesquels l'intelligence saisit le réel. On va creuser ça, on va creuser, mais c'est pour vous montrer l'importance de cette première opération. Cette première opération de l'appréhension me met en contact avec le réel dans toute sa richesse, dans toute sa complexité, et ce réel, l'intelligence le saisit, le touche de 10 manières différentes. Les 10 manières différentes sur lesquelles l'intelligence saisit ça. Je regarde le résultat, ça, hein, tout de suite. Je dis, il y a 10 catégories, il y a 10 formes élémentaires sur lesquelles l'intelligence va de fait contacter ce réel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette opération d'appréhension ? C'est ça qui est intéressant, se poser la question. Qu'est-ce que c'est que l'appréhension qui touche ces formes élémentaires qu'on appelle des catégories ? Peu importe comment on les appelle, le tout c'est de savoir, c'est vrai, la qualité, la quantité, la substance. La substance, vous voyez, c'est le noyau central, on dit le moi. Le moi du chien, qui fait que c'est ce chien, individuel, particulier, c'est tout à fait différent que telle ou telle qualité, parce que vous pouvez dire, oh, il a les mêmes oreilles que le voisin. Oui, il a les mêmes oreilles, mais c'est pas le même. Il y a une individualité qui fait que la substance touche à cette individualité, à quelque chose d'unique, à quelque chose qui est tout à fait particulier. Et les autres catégories secondaire par rapport à la substance. Alors, que représente cette première opération d'intelligence qui saisit ces formes élémentaires ? Qu'est-ce que c'est, si je veux l'analyser, au point de vue critique ? C'est important d'essayer de comprendre comment l'intelligence va saisir ces différentes déterminations. Cette première opération, on va dire que c'est une assimilation intentionnelle. On va expliquer ce que c'est. C'est important de se dire que c'est une assimilation intentionnelle. Je crois que c'est l'heure. Voilà, un quart d'heure.